Alors ce matin, je voudrais revisiter un peu le livre de Néhémie. Pas très longuement, juste comme un encouragement, comme une interpellation. Revisiter le livre de Néhémie. Et le thème de mon message, c'est simplement « Levons-nous et bâtissons ». Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le fait qu'elle est la vérité, le fait qu'elle nous affranchit par l'esprit, qu'elle nous aide à vivre notre vie pour toi. Merci dès que ta parole peut nous enseigner ce qui est essentiel pour nous, à poursuivre durant le temps que nous sommes. Merci, notre Dieu, de nous conduire dans la méditation de ta parole ce matin et de laisser parler, de te laisser parler, toi, dans les cœurs des uns et des autres. Sois là, Seigneur, parmi nous et conduis-nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Néhémie chapitre 2, le verset 17 au verset 20. Petit épisode. Qui connaît l'histoire de Néhémie? Qui connaît l'histoire de Néhémie? Oh! Je suis surpris! Vous connaissez pas Néhémie? Mais non, mais c'est notre voisin qui habite à Spi. Oh non, pardon, ça c'est Néhémie Mouzembo. Non, ce n'est pas celui-là. Mais vous connaissez pas ce Néhémie-là dans la Bible? Bien. Je vous invite à lire l'histoire de Néhémie. Il n'y a que, au total, combien? 10 chapitres, un truc comme ça. Je sais plus combien exactement, mais c'est pas beaucoup. On peut le lire quand même en une heure. On peut lire, on peut tout lire. Je vous invite à lire ce livre, il est très intéressant. Je pensais que nous connaissions un peu plus, alors j'ai pris un court extrait en me disant, voilà, comme on connaît, on va aller un peu plus vite avec le reste, quoi. Alors, Néhémie qui parle. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venez, bâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu, de mon Dieu, avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi? Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. L'histoire de Néhémie est une histoire fabuleuse. C'est une histoire d'un juif qui va partir en déportation, qui va en esclavage en quelque sorte, il va être en captivité, il va être dans une résidence secondaire d'un roi, le roi l'empire assyrien qui les avait conquis, et c'est un territoire, il est dans le palais de ce roi-là, dans sa maison, dans sa résidence des vacances, dans une ville qui s'appelle Suse. Je vais pas revenir sur tout ça parce que c'est beaucoup de choses. Et Néhémie, qui est juif, qui est donc du côté de la tribu de Juda, qui est très attaché à Dieu, va un jour rencontrer des frères qui viennent là-bas à Suse, dans la ville où il se trouve. Et en fait, dans la ville de Suse, lui travaille au palais royal et il est échanson du roi. C'est-à-dire celui qui achète, qui vérifie, qui fait goûter les boissons, quoi. Tout ce qui est boisson, le secteur boisson, c'est un peu lui. Vous vous souvenez, Joseph, dont Jonathan a parlé, avait aussi expliquer le rêve des deux prisonniers qui étaient avec lui, dont l'un était le panetier des pharaons. Il était juste chargé d'amener les pains, de choisir les bons pains, les bonnes pâtisseries pour le roi. Et puis l'autre, c'était effectivement celui qui était aussi là pour la boisson. Donc une sorte de chanson aussi pour le roi. Et donc, Néhémie va avoir cette mauvaise nouvelle de la part de Jérusalem, où il va apprendre que les murailles sont toujours détruite. depuis que les Assyriens avaient détruit les murailles sont toujours restées en destruction. Or, ça se trouvait que c'était déjà, on avait déjà commencé les travaux sur, pour les réparations de cette muraille depuis longtemps. Il y a eu plusieurs personnages qui se sont battus pour qu'on restaure les murailles. Et ces murailles n'ont pas été restaurées. 13 ans auparavant, Esdras est rentré à Jérusalem aussi pour pouvoir faire ce travail, mais il en a été vigoureusement empêché par justement la bande dont on a lu les noms ici dans les versets 19, je pense. Et donc Néhémie apprend ça et ça lui fait mal. Ça lui fait très mal. Ça lui fait vraiment, vraiment mal dans son cœur. Et moi, j'aimerais ce matin que peut-être nous regardions un peu la situation de cette époque-là avec les yeux de Néhémie, avec le cœur de Néhémie, pas avec nos yeux à nous. Parce qu'aujourd'hui, nos yeux à nous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on en a à fiche, franchement, d'une muraille? On n'en a plus dans nos villes. Est-ce qu'on a des murailles encore dans nos villes? Il n'y en a plus. Enfin, à part la muraille de Chine. Et encore, elle sert absolument plus à rien. Enfin, à part le tourisme. Les murailles, aujourd'hui, ne veulent rien dire. Nous en avons gardé peut-être des traces. Puisque vous savez que quand vous allez à Bruxelles, on peut rentrer à Bruxelles par les différentes portes. Vous savez ça, hein, porte de Namur, porte d'Anderlecht, porte de Halle, etc. Ce sont des anciens accès par lesquels on rentrait sur Bruxelles. Pourquoi? Parce que Bruxelles était une ville barricadée. Vous avez ça, la même chose à Paris. Quand vous rentrez à Paris, vous avez porte de Clichy, porte de ceci, porte de cela, etc. Parce que la ville aussi était barricadée. Dans le temps, une ville était barricadée par un muraille, à part une muraille, et alors, pour y entrer, il fallait qu'on soit vérifié, qu'on puisse avoir l'accès, le droit d'y entrer par... on avait la permission d'y entrer ou pas. À Namur aussi, nous avons aussi notre petite entrée aussi, parce que c'est une seconde ville de campagne pour le roi. Nous avons aussi nos petites portes aussi, hein, porte de Bruxelles, porte de Liège, etc. Et pour nous, ça ne veut plus rien dire, à part nous avons des séquelles de l'histoire comme ça. Mais pour ces gens à l'époque, les murailles et symboliser la protection, la sécurité. Ça symbolisait la liberté à l'intérieur des murailles de vivre sans crainte, sans terreur, sans se dire qu'est-ce qui va nous arriver encore. Mais le fait de ne pas avoir des murailles, c'était une exposition. On était exposé à tous les dangers. Vous savez? Bon. Esdras, si vous lisez l'histoire d'Esdras, c'est pas très loin de la de Néhémie, hein. Vous allez constater que Esdras a fait quelque chose de bizarre à l'époque. Quand il est rentré, il est arrivé et il a chassé toutes les femmes étrangères. Ce qu'il fait là? Mais en fait, c'était une démarche fondée sur l'idée que, à cause des femmes étrangères, les Juifs ont commencé à adorer des dieux étrangers. Et donc, il les a vraiment mis à la porte. Mais les femmes étrangères avaient eu facile à accéder. Pourquoi? Parce que la ville était en ruine. Tout le monde peut rentrer et sortir. C'est un moulin. Nous, on ne peut plus comprendre ça. Mais regardons avec les yeux de Néhémie. Qu'est-ce que cette muraille symbolise pour Néhémie? Pour Néhémie, cette muraille, ça symbolise la présence et la gloire de Dieu. C'est Jérusalem, quand même. Jérusalem, c'est la ville sainte. C'est la ville de Dieu. Comprenez? Pour lui, détruire les murailles, c'est comme mettre Dieu dans l'opprobre, dans le mépris. C'est comme se moquer de Dieu, en quelque sorte. Pour Néhémie, c'était une catastrophe. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il voit son Dieu. Il voit son Dieu comme un Dieu glorieux. Et donc, les gestes qu'il pose pour son Dieu doivent être des gestes qui sont à la mesure de la gloire, de la manière dont il voit son Dieu. Néhémie est passionné par Dieu. Souvent, je vous ai toujours dit que tout commence avec la passion. Lorsqu'on est passionné par quelque chose, on élimine toutes les bonnes raisons de ne pas être avec cette chose-là. N'est-ce pas? Les passionnés du football, demandez-leur de ne pas regarder un match de foot de leur équipe. Hein, Simon-Pierre, toi tu connais bien les Carolo, hein, les fans de l'équipe de Charleroi. Eh bien, demande-leur de manquer à un match. Est-ce que c'est possible? Oui, non, toi t'as raté ça. Mais toi tu travailles, toi t'es fonctionnaire. Mais demande à un fan, un vrai fan, de rater un match. C'est possible? Ça voilà. Il a réfléchi, hein. C'est une réponse réfléchie. Il a réfléchi et puis il a dit non, c'est pas possible. Tout simplement, pas possible. Quand on est passionné, ennemi est passionné par Dieu. Dieu, c'est son affaire. Dieu, la gloire de Dieu le concerne lui aussi. C'est pas quelque chose qui lui est étranger. C'est quelque chose qui fait partie aussi de ce qui l'intéresse lui. Et donc, pour Néhémie, il faut reconstruire ces murailles. Il faut restaurer l'autel. Vous savez, il n'est pas le seul à agir de la sorte. Souvenez-vous, le prophète Élie, devant les prêtres de Baal. Que fait-il d'abord? Il commence par restaurer l'autel de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Ça, physiquement, ça rappelle le grand Dieu en qui on croit. Il faut reconstruire. Il faut reconstruire le murail. Et Dieu va lui faciliter la tâche. Parce que c'est quelque chose que Dieu a mis dans son cœur. Dieu va ouvrir les portes. Le roi va donner le feu vert pour qu'il puisse aller et qu'il puisse faire ce travail. Vous savez quoi? On s'est battu pour restaurer les murailles pendant des années. Mes sources disent qu'on a fait plus de 100 ans pour restaurer les murailles par tous les prédécesseurs. Vous savez en combien de temps Néhémie a restauré toutes les murailles? 52 jours. Quelle motivation! Un boulot qui pouvait prendre des années, mais il y a été quoi. Et il a fait le travail. Mais évidemment, pour pouvoir y arriver sur place, il a dû gagner la confiance, il a dû convaincre les autres juifs de aussi prendre le travail. C'est ça que nous lisons là. Vous voyez, il expose la situation. Et vous voyez, le malheureux état dans lequel nous sommes, c'est même pas l'état dans lequel se trouvent nos murailles, c'est nous. À travers ces murailles, cette ruine, c'est quelque part nous qui sommes aussi en ruine. C'est nous qui sommes aussi mal. Puisque la gloire de Dieu est touchée, nous aussi. Et puis, il les exhorte. Il leur raconte comment Dieu a ouvert les portes. Et eux tous disent, ok. Levons-nous et bâtissons. Restaurer un bâtiment en ruine, n'est-ce pas une folle entreprise pour nous aujourd'hui? Ça coûte beaucoup d'argent, il y a de fortes chances qu'on trouve encore des vis cachées, il y a des... C'est de la poussière, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de gens ne sont pas tentés par ça. Mais quand on aime quelque chose, quand on est passionné par quelque chose, par un bâtiment, par une œuvre, un édifice, on ne compte pas, hein. On va le faire, on va le restaurer. Regardez les églises, regardez les œuvres archéologiques, regardez des monuments. On aime ça, ça symbolise quelque chose et on fera tout pour les restaurer s'il le faut. Peut-on bâtir aujourd'hui notre église? Peut-on nous lever et bâtir aujourd'hui notre église? Face à l'islam conquérant, peut-on mettre des remparts, que l'église devienne le rempart face à l'islam, face à l'extrémisme? Peut-on faire de notre église un rempart, des murailles, pour protéger contre le côté négatif de l'islam? Peut-on faire de notre église, un rempart où les chrétiens sont en sécurité, ils sont bien, ils peuvent grandir, ils peuvent travailler Ils peuvent œuvrer pour Dieu. Peut-on faire ça aujourd'hui? La réponse est oui. Oui. À condition. À condition que nous voyons dans l'Église que ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mais l'œuvre de Dieu. À condition que nous voyons dans l'Église Dieu et pas l'humain. À condition que nous soyons passionnés par ce Dieu, que nous le portions tellement dans notre cœur que c'est pour lui, c'est que pour lui qu'on veut faire ça. Pour lui seulement. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter à vous lever et à bâtir l'Église. À bâtir l'Église dans une démarche collective. Vous avez vu, Néhémie, s'il était parti tout seul, même avec tous les gardes, tous les soldats qu'il avait, il pouvait leur dire, écoutez les gars, vous travaillez avec moi. Mais ça ne concernait pas les gardes. Ce n'est pas les gardes qui ont part à cette œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. C'est ceux qui croient en Dieu. C'est ceux qui sont dans le Seigneur, qui sont impliqués, qui sont appelés à s'impliquer. C'est comme ça que Néhémie va aller vers les Juifs. Parce que eux peuvent comprendre. Eux ont la passion de Dieu, eux aussi. Et ensemble, ils vont faire cela. Voyez, c'est un travail qui demande de l'unité. Une grande unité entre tous ceux qui travaillent. Tous ceux qui doivent se lever. Il faut de l'unité parce que s'il n'y a pas d'unité, rien ne sera fait. Rien ne sera bon. L'unité exclut les petits désirs personnels. Seul ce qui compte, c'est l'intérêt de Dieu que nous partageons tous. L'unité exclut la volonté de puissance personnelle. C'est pas ce que je pense. C'est pas ce que je veux. C'est ce que nous voulons ensemble. C'est ce que nous pensons ensemble. C'est pas ce que je crois que. C'est seulement ça. Si tu veux pas, attention, hein. Je suis méchant, hein. Non. C'est ce que nous voulons ensemble. Sous-entendu, consensus, concertation. On discute ensemble, on parle paisiblement, on s'entend. On s'entend. Et on arrive à une conclusion d'entente. Et on se serre la main après. Ouais, on fera ça, amen, oh, gloire à Dieu. Au revoir mon frère, au revoir ma soeur. Notre église est en marche, est en bonne marche. Le succès du travail en commun dépend de l'engagement de tout le monde, dépend de la bonne volonté de chacun. Dépend de la bonne volonté de chacun. Ce n'est pas l'un travaille et l'autre se repose, c'est tous nous travaillons. Bien sûr, on ne travaillera pas tous à faire le même boulot. Hein. Si vous suivez l'histoire de Néhémie, vous allez voir que dans les chapitres suivants, on décrit un peu les différentes tâches que chaque famille, chaque clan fait. Vous allez voir qu'ils ne font pas la même chose. Mais ils sont tous là. Ils sont tous là, en train de faire quelque chose. Frères, sœurs, comment contribues-tu à ce travail de restaurer les murailles, de faire en sorte que ton église devienne le lieu où il est possible que d'autres, en plus de toi, grandissent spirituellement? Entre-temps, que ça devienne un rempart contre toute forme d'extrémisme, contre toutes sortes de sectarisme, contre toutes sortes d'hérésies. Comment contribues-tu à ça? Que fais-tu? Ici, ce texte nous invite à une attitude, être ouvert à l'unité, rechercher l'unité, rechercher à travailler dans l'unité, rechercher ce qui fait consensus, ce qui nous unit, ce qui nous met ensemble. Voyez, le vrai christianisme, c'est toujours un christianisme qui va combattre le légalisme. Toujours. Pourquoi? Parce que le légalisme, c'est « on fait comme ça !» T'as compris? Et pas autrement. Le vrai christianisme, c'est « attends, comment on fait encore ensemble ?» C'est comme ça la règle, ok. Est-ce que nous sommes en mesure de toujours respecter cette règle? Oui, les amis, s'il vous plaît, respectons la règle. Est-ce que faut-il revoir les choses? Peut-être améliorer les choses? Ah, les amis, peut-être qu'ensemble, nous voulons revoir les choses. Toujours ensemble. Est-ce que je suis prêt à ça? Qu'est-ce qui fait ma vie? Qu'est-ce qui fait mes rapports avec les autres? Ce travail est important et attention à la manière dont nous construisons, n'est-ce pas? Je n'ai pas donné ce texte-là, je vais le lire, mais excuse-moi, je vais juste le lire comme ça. Regardez un peu dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, et il y a une discussion que Paul engage dans ce texte, et il engage ça par rapport aux gens qui disent « Moi, je suis pour Apollos, moi, je suis pour Paul, et moi, je suis pour celui-là. » Vous savez, il y a des serviteurs qui ont du succès dans l'Église. Hein? « Ah ouais, tel, quand il préside, moi, j'aime bien. Quand il prêche, oh là là, tel autre, le jour où il prêche, je préfère même pas venir au culte. » Vous voyez? Mais alors, Paul répond par rapport à tout ça. Et il essaie d'expliquer que c'est rien, Apollos, c'est rien, Paul, c'est rien, c'est pas ça le plus important. Et au verset, donc chapitre 1 Corinthiens 3, au verset 9, il dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, donc le peuple de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Nous avons une tâche commune, mais chacun de nous doit faire attention à la façon dont lui apporte sa contribution. On doit toujours faire attention à ça. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas ni être une pierre d'achoppement pour les autres, ni pouvoir être réprouvé par Dieu. Attention à la façon dont on le fait. Et vous allez voir au verset 12, toujours dans le même texte, il dit, « Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, c'est l'œuvre de chacun qui sera manifestée. » Voyez, nous avons aussi une part de responsabilité, mais nous devons le faire dans l'unité, ensemble. Et le fondement, vous remarquerez, le fondement, c'est Jésus-Christ. Le verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Le fondement de notre unité, le fondement du travail que nous voulons faire, c'est Jésus-Christ. Peut-être que pour vous, travailler dans l'Église, c'est pas important. Après tout, il y a des gens qui pensent comme ça. « Je peux vivre sans Église. » Je suis chrétien, je peux vivre en dehors de l'Église. Et alors, qui vous a dit que nécessairement, si je deviens chrétien, il faut que je sois dans une Église? Qui vous a dit ça? Celui qui dit ça, qui pose des questions pareilles, devrait regarder un tout petit peu la Bible. Mais c'est pas grave. Admettons que... Non, il y a des gens qui considèrent que l'Église, c'est pas important. Ou bien qui pensent que l'Église, c'est le lieu où nous venons pour nous émanciper, en quelque sorte. Vous savez... L'Église persécutée, les gens de l'Église persécutée. Il y avait un chrétien égyptien qui était venu ici. Ça, c'est un article que j'ai lu dans les regards croisés là de portes ouvertes. Et il a dit ceci, cet homme-là. Ça m'avait vraiment frappé. On parlait sous le thème de la souffrance. Et il a dit ça. Il a dit, vous les chrétiens de l'Occident, vous faites de votre Église le lieu de votre épanouissement personnel. C'est-à-dire que c'est dans l'Église que je viens me faire valoir. Quelqu'un d'organisé, de sérieux, de bien. Vous voyez? Il dit, vous avez le temps pour ça, parce que vous n'avez pas le feu derrière vous. Alors vous venez, vous faites de l'Église le lieu de votre épanouissement, ça devient le lieu de votre transaction pour vous faire valoir, vous imposer vos idées, imposer votre façon de voir, etc. Vivre comme vous aurez pu vivre au boulot. Il dit non. Pour lui, l'Église, c'est pas ça. C'est le lieu où je viens me mettre à la disposition de Dieu, comme un esclave. C'est-à-dire, ce n'est pas moi, c'est pas mes idées, c'est pas ma promotion, c'est pas moi c'est Dieu. Moi, ça m'avait touché. Ça m'avait énormément touché. J'ai dû réfléchir à moi, pour moi-même, dire, et toi, Gaston, où est-ce que tu en es avec ça? Peut-être que pour nous, l'Église ne semble pas quelque chose de très important. Mais vous savez, il y a des gens pour qui l'Église représente un véritable danger. De la même façon qu'en ce temps-là, pour ces murailles-là, il y avait des gens pour qui bâtir ces murailles, c'était un vrai danger pour eux. Verset 19, vous avez vu ces hommes-là, il y a un Arabe, il y a un Ammonite, il y a un Oronite, je parle des Oronites, je ne sais pas d'où ils viennent ceux-là, mais vous savez, les Ammonites, ils n'aiment pas trop les Juifs, les Arabes non plus, hein. Bon, enfin, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Et ils ne sont pas contents. Ils ne veulent pas. Je vais peut-être, j'ai pas donné le verset à mon ami ici parce que j'ai perdu ça de vue, mais on va juste regarder la raison pour laquelle ils n'aiment pas le peuple d'Israël. Ils n'aiment pas qu'on fasse ce mur-là. Je vais vous montrer ça vite dans, juste le verset avant. Je sais pas si c'est le verset avant. En dehors du verset 17 là. Non, hein. Allez, je vais le retrouver vite fait. Allez, mon ami Néhémie. Voilà. Au verset 10. Voilà ce qu'il dit. Le même gars, donc je cite le nom du même gars. Sambalat, le Horonite, Tobija, le serviteur Ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Vous avez entendu? Il n'était pas content parce que restaurer les murailles, c'était quelque chose qui était bien, qui était faire un bien pour le peuple d'Israël. Et ils n'étaient pas contents de ça. Ils n'étaient pas contents, ils ne voulaient pas qu'on leur fasse du bien. Ils ne voulaient pas le bien du peuple d'Israël. Mes amis, aujourd'hui encore, il y a des gens qui ne veulent pas le bien de l'Église. Oh, quand je dis les gens, vous allez croire que c'est des personnes. Je veux dire, vous connaissez son nom, il s'appelle le diable. Vous savez que son nom c'est Satan. Satan, ça veut dire ennemi. Ennemi de qui? Ennemi des enfants de Dieu. Ennemi du bien des enfants de Dieu. Et nous vivons notre vie comme si Satan n'existait pas. D'ailleurs, je crois que pour beaucoup de chrétiens, je pense qu'ils aiment bien ignorer que Satan existe. N'est-ce pas? On vit notre vie comme s'il n'existait pas. Comme ça. Si on n'en parle pas, s'il n'existe pas, on s'en fait pas. On va pas se tracasser de lui. Hein? On fait comme s'il n'existe pas, on l'ignore. Mais voyez ici dans le cas des murailles, ouais, ils ont quand même commencé à agir. Première étape, ils ont cherché à se moquer. N'est-ce pas? Ils ont commencé à se moquer. Ils ont commencé à aller pousser au découragement. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que le travail ne se fasse pas. Même si nous essayons de nier l'existence du diable dans l'œuvre de l'Église, sachons qu'il existe. Il ne veut pas notre bien, il ne veut pas le bien des enfants de Dieu. Il les pousse à l'erreur. Il les pousse à se décourager. Il les culpabilise. Voyez la nuance ici? Ils disent, oh, vous voulez faire une... Tu peux revenir sur le verset 19 là et 20. Il leur dit, oh, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire une muraille? Mais vous êtes en train de vous révolter contre le roi. Mais, au fait, c'est le roi qui a donné le feu vert pour qu'il fasse ça. Voyez, on veut les pousser à la culpabilité. On veut les pousser à se culpabiliser, dire, oh, ah, peut-être que, et on a peur. Parce que la culpabilité entraîne la peur. Alors on a peur, on se dit, ah bon, ok, ça va, on laisse alors. Si le roi n'est pas content, on laisse alors. Le diable, c'est ça. Il nous pousse à l'erreur. Il nous pousse au découragement. Il nous culpabilise. Il nous emmène à être dans la confusion, dans la façon dont on comprend l'œuvre de Dieu. On finit par identifier l'autre comme mon ennemi. Et pas lui. Voyez? La Bible dit clairement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout esprit malveillant, toute domination, etc. Parce que c'est ça, le vrai ennemi. Mais le diable me pousse à croire que ma sœur, que mon frère, c'est mon ennemi. C'est celui que je dois combattre. Il nous pousse à ça. L'humain n'est pas notre ennemi. L'humain, c'est notre frère, notre sœur. Et s'il n'est pas en Christ, c'est une créature de Dieu que nous avons, que nous sommes appelés à amener en Christ. Prendre conscience que nous sommes entourés d'ennemis devrait nous pousser à nous unir encore plus. Imaginez l'armée romaine. Vous savez qu'une des stratégies efficaces de l'armée romaine, vous savez c'est quoi, ça s'appelle comment? Les jeunes, ils savent ça. Jean, tu connais la stratégie, la meilleure stratégie romaine, de l'armée romaine pour pouvoir gagner la guerre? Comment ils font? Tu te souviens plus? On en a parlé, non? Enfin, on en a parlé à l'Interclub. Les jeunes. Oui, David, Daniel? Comment? La tortue! Ils font la tortue! Ils se ferment, ils s'enferment dans leur bouclier, ils ferment le bouclier, et ça ressemble à une espèce de tortue comme ça, et ils sont imprenables. Tu peux faire tout ce que tu veux avec leur bouclier, ils se défendent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent un tout petit peu, tchoup, et ils referment. Et ils massacrent toute une armée, comme ça, en tortue, enfermée, comme ça, entre eux là-bas. Voyez? Ça, c'est la méthode de la tortue. Et nous, les chrétiens, devraient avancer comme ça, comme des tortues, les uns sur les autres, dans une coordination merveilleuse. C'est-à-dire que celui qui attaque, il sait très bien qu'il attaque et il sait comment être protégé. Celui qui est en haut protège ceux qui sont en bas, etc. Donc, c'est quelque chose de ce qu'on doit faire. Parce que nous oublions souvent que l'unité dont on a besoin, c'est pas seulement parce que c'est magnifique d'être unis. L'unité dont on a besoin, c'est aussi parce que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. J'aimais bien ce que l'homme politique l'a dit. Contre le terrorisme, c'est un ennemi invisible. Mais nous, Satan est un ennemi invisible. Il est là aussi pour nous attaquer dans tous les sens. L'unité est importante, parce que ça nous aide à être forts. À l'instar donc de Néhémie, ce texte nous invite vraiment à réfléchir à la façon dont on veut travailler dans l'Église. Levons-nous et bâtissons notre Église. Faire de l'Église l'endroit le plus sûr au monde. Faire de l'Église des villes refuges. Vous connaissez c'est quoi les villes refuges dans l'Ancien Testament? Vous avez déjà entendu parler de ça? C'était les villes des sacrificateurs. C'était des villes où quelqu'un pouvait aller se cacher quand il avait commis un meurtre, un acte involontaire. Il pouvait aller se cacher jusqu'à ce que le sacrificateur, le souverain sacrificateur en vie à cette époque, meure. Donc ça lui permettait d'avoir la vie sauve. Faire de nos églises des villes refuges. Pour nous et pour ceux qui peuvent venir aussi. Le bâtiment dans notre église est fait. Je ne vous demande pas de vous lever pour construire encore quelque chose. Ce n'est pas ça. Mais il s'agit d'édifier ensemble une maison spirituelle. Une maison pour Dieu. À nous de voir comment on va le faire. Dans la fidélité, dans l'engagement, dans la réalisation des projets, dans l'évangélisation, dans la prière, dans les enseignements, dans la lecture de la parole de Dieu, dans notre relation, communion fraternelle, dans notre façon de considérer les autres, notre façon de nous concerter pour décider avec les autres, etc., etc., etc. À chacun de voir et surtout de se lever pour qu'ensemble nous bâtissions l'Église. Amen.